France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 27 mai. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, pour ou contre le traçage des Français, députés et sénateurs doivent se prononcer aujourd'hui sur l'application Stop Covid. Elle est défendue par le gouvernement, mais elle fait débat au sein même de la majorité. On verra ça, Agnès, après les autres titres.
L'immunité croisée, nouvel espoir des chercheurs pour parvenir à une immunité collective. La nouvelle 3008 de PSA 100% électrique sera fabriquée à Sochaux. La Turquie, nouvelle poubelle de l'Europe pour les déchets plastiques. Les détails de l'allongement du congé de deuil après la mort d'un enfant. Et puis quand les musées inventent les circuits courts de l'art.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Les librairies frappées durement par la crise l'attendent comme le Messie. Il faut dire qu'il a vendu plus de 10 millions de livres depuis l'affaire Harry Kéber, traduit dans toutes les langue possible et imaginable. Le romancier Joël Dicker, qui sort L'énigme de la chambre 622 aux éditions de Fallois, sera avec nous à 7h50 en chair et en os.
Et oui,
qu'il revienne en plateau, en studio.
Voilà, enfin à 8h20, Léa, nous recevons dans le grand entretien de la matinale le professeur d'histoire et de sociologie politique Marc Lazare, grand spécialiste de l'Italie, également directeur du centre d'histoire de Sciences Po. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Ce devait être l'une des clés du déconfinement, mais de problèmes techniques en protestations éthiques, l'application Stop Covid a mis du temps à arriver jusqu'au Parlement. On l'a même pensé enterrée. L'appli permet à une personne testée positive d'alerter tous ses proches susceptibles d'avoir été contaminés au cours des 15 derniers jours. C'est la fonction Bluetooth du téléphone qui est utilisée, donc pas de géolocalisation possible. Le texte est donc soumis au vote à l'Assemblée cet après-midi, au Sénat ce soir. Un vote non contraignant pour le gouvernement, mais hautement symbolique. Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, s'est donc démené ces dernières heures pour convaincre les députés de la majorité, encore hésitants. Maxence Lambrec.
Très peu de marcheurs vont finalement voter contre. Ils ont chacun eu le droit à un coup de fil du ministre, leur assurant que cette application était facultative, temporaire, sécurisée, anonyme. Certains n'ont pas été convaincus, y voyant toujours une atteinte à la vie privée, au secret médical. La droite s'en méfie également, le patron du groupe LR, Damien Abad.
J'en ai un peu assez de cette société où matin, midi et soir, on essaye de piétiner les libertés publiques. Et puis surtout, l'interrogation la plus forte que nous avons, c'est sur l'efficacité de ce dispositif. On nous dit qu'il faut que 60% de la population française télécharge cette application pour qu'elle soit efficace. Notre sentiment, c'est que le taux de pénétration sera faible.
Le ministre Cédric O lui répond que non, à partir du moment où 10% de la population d'un même bassin de ville aura téléchargé, elle sera efficace.
Dès les premiers téléchargements, ces applications évitent des contaminations parce qu'elles vont plus vite que les brigades de traçage numérique et que donc, si vous gagnez 48 heures en prévenant quelqu'un qui, par ailleurs, est en période d'incubation ou est asymptomatique, il reste chez lui. Et donc, elles évitent des contaminations, des malades et des morts.
Il devrait obtenir le feu vert du Parlement. Mais aura-t-il derrière l'appui du chef du gouvernement ? S'interroge un député de la majorité. Pour que ça marche, dit-il, il faudrait qu'Édouard Philippe en fasse la pub.
Et si le Parlement y est favorable, l'application Stop Covid pourrait fonctionner dès ce week-end. Et dans la lutte contre le Covid-19, une nouvelle hypothèse est défendue par certains chercheurs, celle de l'immunité croisée. En clair, avoir contracté un rhume dans le passé pourrait immuniser contre ce coronavirus. Des données publiées récemment semblent accréditer cette thèse, mais il faut encore rester très prudent, Véronique Julia.
L'étude a été publiée dans Cell, une revue prestigieuse. Elle tendrait à conclure qu'une part de la population beaucoup plus importante que ce qu'on croyait serait déjà immunisée contre le Covid. Il y a ceux qui l'ont déjà eu, bien sûr, mais aussi tous ceux dont le système immunitaire serait capable de le rejeter. Un autre coronavirus les aurait infectés par le passé, un simple rhume peut-être. L'organisme en aurait gardé la mémoire et donc la capacité de rejeter ensuite un ennemi qui lui ressemble. D'après les chercheurs américains qui signent l'étude, 40 à 60% de la population pourrait ainsi être déjà immunisée sans le savoir. On serait donc proche, tout naturellement, de cette fameuse immunité collective qu'il faut atteindre pour stopper l'épidémie. Et certains, évidemment, voudraient y croire. L'hypothèse est séduisante, reconnaît le professeur Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, mais à ce stade, pas encore assez étayé.
C'est à mon avis plus une spéculation qu'une démonstration. C'est intéressant, mais c'est pas totalement démontré.
Une autre hypothèse est celle du du terrain génétique. Elle pourrait expliquer pourquoi certains ne tombent pas malades quand d'autres, même jeunes et en bonne santé, font des formes graves. Sur le sujet, plusieurs études sont en cours. En attendant des résultats solides, la plupart des épidémiologistes préfèrent ne pas se fier à cette immunité croisée. Ils restent pour l'instant sur l'hypothèse d'une population encore faiblement immunisée qui doit encore se protéger et éviter les attroupements.
Les chiffres, en tout cas aujourd'hui, continuent de montrer une baisse du nombre de décès quotidiens, deux personnes en réanimation et deux cas de contamination. 1555 patients sont aujourd'hui en réa. Les trois quarts sont hospitalisés dans quatre régions, l'Île-de-France, le Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France.
Il est 7h05, Agnès. 1 milliard d'euros pour inciter à l'achat de véhicules plus propres.
Le plan global de relance de 8 milliards d'euros dévoilé hier par le chef de l'État pour soutenir la filière auto entend booster les achats de voitures électriques ou hybrides avec des primes et des bonus qui pourront aller jusqu'à 12 000 euros. Un dispositif exceptionnel qui sera mis en place dès la semaine prochaine et jusqu'à la fin de l'année. Et c'est dans ce contexte que les 10 500 salariés de PSA à Sochaux ont appris hier que la future 3008, 100% électrique, serait produite dans le Nord-Franche-Comté. Wassila Guitoun est allée à la rencontre des ouvriers à la sortie de l'usine. Reportage.
Un masque chirurgical sur le nez, t-shirt bleu foncé aux couleurs de PSA. François attend pas d'entrer dans l'usine.
Bah oui, tant mieux. Après, on fait de véhicules, à mieux c'est. Surtout dans les conditions en ce moment. Comme pour tous les fabricants de véhicules, c'est pas joli. S'ils font de l'électrique, on s'en sortira peut-être, j'en sais rien. Mais pour l'instant, tous les fabricants de véhicules, Renault va mal. Nous, on n'est pas à l'abri non plus. Personne n'a l'abri.
2 mètres plus loin, toujours dans la file d'attente pour travailler sur les lignes de montage, Majid est tout aussi prudent à propos des annonces de PSA.
Là, c'est l'empereur de la région. Hein. Si Peugeot meurt, tout ce qu'il y a autour meurt. Et on est content qu'il y a encore du boulot pour 10 ans apparemment. On verra après pour la suite. Quoi. Ouais, vu ce qui se passe, on ne sait pas. Hein. On ne peut pas dire ouais, ça va être, c'est super, machin. Non, il faut attendre. Si les gens reconsomment de l'automobile pour l'instant... Il faut déjà payer son loyer avant d'acheter une bagnole, je pense. Déjà que ça reprenne un rythme de croisière et que les gens ressortent correctement, qu'ils fassent comme un peu comme avant, quoi. Puis après, on pourra peut-être tirer des plans sur la coque, mais pour l'instant, on reste les pieds sur terre et puis on attend de voir.
Les représentants du personnel sont plus enthousiastes. En tout cas, Eric Pelletier de Force Ouvrière prend moins de précautions. L'usine a un avenir pour au moins 10 ans, selon le syndicaliste.
Un avenir qui s'annonce beaucoup plus sombre chez Renault. Le constructeur s'apprêterait à supprimer 5000 postes d'ici 2024. Nous reviendrons dans le journal de 7h30. Et puis c'est aujourd'hui que la Commission européenne dévoile le détail de son plan de relance à hauteur de 1000 milliards d'euros. Si les restaurants et les bars situés en zone verte voient le bout du tunnel avec une possible réouverture à partir de mardi prochain, les boîtes de nuit, elles, restent plongées dans le noir. Un secteur déjà en crise, à l'image du célèbre VIP Room rue de Rivoli à Paris, en vente depuis quelques jours. Éric Audra et Thibault Lefebvre, eux, se sont rendus au Chicago, une boîte de nuit à Vannes, dans le Morbihan. C'est le long format de ce 7 heures.
Proud Mary par Ike et Tina Turner, la signature de toutes les fins de soirée du Chicago animée par DJ Jeff.
Welcome to Chicago.
Jean-François Chaffard est un des 4 salariés de la discothèque, 27 ans au platine sans interruption et pour la première fois au chômage partiel, il vit très mal la fermeture de l'établissement.
Rien qu'à l'écouter, j'ai les poils qui s'irrissent. C'est quelque chose ça qui me manque. Quoi. Le fait de me retirer tout ça, c'est anéanti. Si on est dernier à ouvrir, si on ne peut pas vivre de notre métier, qu'est-ce que je ferai derrière ? Je ne sais pas.
Le Chicago accueille en temps normal au cœur d'une zone industrielle à quelques kilomètres du centre-ville de Vannes, entre 200 et 250 personnes. Un tiers sont des habitués, comme Lionel.
Ce qui me manque aujourd'hui, c'est l'ambiance. Parce qu'on a besoin de s'amuser, on a besoin de retrouver des amis. Respecter les barrières dans une boîte de nuit, c'est pas possible. Les gens, ils sont tous collés les uns aux autres. Il va falloir trouver une solution.
Et des solutions pour retravailler à tout prix. Le patron, Jackie Brindejon, en imagine tous les jours. Il paie environ 10 000 euros de charges par mois et a déjà perdu plus d'un tiers de son chiffre d'affaires de l'année.
C'est une perte sèche, ça fait très mal. On essaye de trouver toutes les solutions pour rouvrir, par exemple avec les diffuseurs de brouillard. Ce sont des produits qu'on remplit dans une machine. Est-ce qu'on ne peut pas mettre quelque chose de non nocif, désinfectant ? On est prêt à donner des visières aussi également. Pourquoi pas trouver des masques avec un trou pour les pailles, comme ça c'est vu. On cherche tout.
Selon le syndicat national des discothèques, 30% des 1600 établissements en France pourraient faire faillite dans les prochains mois. Le secteur emploie entre 25 000 et 30 000 personnes. Il génère tous les ans 1 milliard d'euros.
Un reportage de Thibault Lefèvre et Éric Audra.
Il est 7h10. Le détail à présent du projet de loi sur le congé après la mort d'un enfant.
Après des débuts chaotiques, le texte qui prévoit l'allongement du congé de deuil a été adopté définitivement et à l'unanimité hier soir. Un texte étoffé et amélioré. Hélène Chevalier.
Lors de son premier vote fin janvier, ce texte n'était composé que de 2 articles. Il en comporte aujourd'hui 8. La loi votée hier soir fait donc passer de 5 à 15 jours le congé de deuil d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans. Il ne concernera pas uniquement les salariés du privé, mais aussi les fonctionnaires ou les travailleurs indépendants. Le texte prévoit une protection du salarié endeuillé contre un licenciement pendant 13 semaines. Il permet également de faire des dons de RTT à un collègue qui aurait perdu un enfant. Certaines prestations sociales seront également maintenues pendant un certain délai. Par exemple, les allocations familiales continueront à être versées pendant 3 mois. Enfin, la loi va expérimenter sur toute la France la prise en charge d'un soutien psychologique des parents ainsi que des frères et sœurs de l'enfant décédé. Le gouvernement souhaite faire oublier la polémique du mois de janvier et aller vite. Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, a annoncé hier soir que la loi serait applicable dès la semaine prochaine.
Des masques chirurgicaux jetés sur les trottoirs ou flottant à la surface des rivières, une pollution d'un nouveau genre qui inquiète. Le masque met 400 ans à se décomposer. Peut-être finiront-ils un jour dans les décharges à l'autre bout du monde. Greenpeace dénonce en tout cas aujourd'hui la situation en Turquie, devenue la poubelle des déchets plastiques de l'Europe. Anne Angloer.
Royaume-Uni, Italie, Belgique, Allemagne et France. Voici les 5 pays européens qui, l'an dernier, ont envoyé le plus de déchets plastiques en Turquie. C'est un commerce florissant puisque les importations turques ont été multipliées par 173 en 15 ans, avec une accélération depuis 2018, depuis que la Chine, le plus gros importateur, et d'autres pays asiatiques ont cessé d'acheter la plupart des déchets recyclables. Le problème, c'est que la Turquie ne dispose d'aucun cadre législatif pour gérer ces importations massives de poubelles européenne. L'ONG Greenpeace dénonce des contrôles sommaires aux frontières, puis dans le pays, une fois que ces déchets ont été pris en charge par des entreprises de recyclage. Denise Bayram, co-directrice de programme chez Greenpeace Méditerranée.
Il arrive que ces sociétés de recyclage qui travaillent sous licence n'aient pas les moyens de recycler tout ce qu'elles importent. Rien ne les empêche alors de revendre leurs déchets à des entreprises qui, elles, n'ont pas de licence. Donc on ne peut pas dire que l'intégralité des plastiques qui entrent en Turquie sont recyclés.
Et ceux qui ne le sont pas se retrouvent souvent dispersés dans la nature, menaçant l'environnement et peut-être la santé. L'ONG Greenpeace s'inquiète désormais des risques de transmission du nouveau coronavirus via ces déchets européens. Anne Leroy, Istanbul, RFI pour France Inter.
Il est 7h12, l'épidémie de Covid-19 va-t-elle signer, Agnès, la fin des très grandes expositions ?
Trop de monde, trop cher à organiser, trop polluant, ces blockbusters reverront-ils le jour ? La réflexion en tout cas a commencé au sein des 1219 musées de l'Hexagone, mais également à l'étranger. Isabelle Pasquier.
Avec le nouveau paysage sanitaire, les musées sont obligés de se lancer un nouveau défi, se réinventer, réinventer leur mission. Premièrement, plus de propositions de visites d'expos et d'événements en ligne pour créer un rapport plus interactif avec des publics pas toujours habitués à venir au musée. Deuxièmement, moins d'expositions spectacles qui coûtent une fortune avec les prêts et les assurances. Sylvie Ramon est la directrice du Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Nous avons connu une sorte d'âge d'or des expositions qui nous a entraînés dans une sorte de compétition, de véritable course aux prêts. Et je crois qu'on prend conscience avec cette crise qu'on ne peut plus continuer ainsi et qu'il nous faut absolument réfléchir, trouver une sorte d'équilibre entre nos expositions et la présentation des collections permanentes. Et ces collections vont nous permettre d'imaginer des expositions que je présenterai comme des interprétations augmentées des collections.
Sans compter l'empreinte carbone des grandes expositions, avec le transport des œuvres à travers les continents.
Se demander, avant d'emprunter par exemple un prêt au Metropolitan à New York, si on ne peut pas trouver l'équivalent dans un musée européen ou dans un musée français.
Quand les musées inventent les circuits courts de l'art.
Et parmi les expos virtuelles qui cartonnent en ce moment, Frida Kahlo ou encore Soulages en 360 degrés et Raphaël à Chantilly, il y en a pour tous les goûts.
Merci Agnès. C'était le journal d'Agnès Soubiran.